Donc, un message un peu plein d'histoire aujourd'hui. Nous allons parler d'Abraham et Melchizedek. Ça, c'est la base du message, Abraham et Melchizedek. Mais nous allons commencer dans Marc chapitre 12. On va faire la lecture dans Marc chapitre 12, verset 41 au 44. Marc chapitre 12. Verset 41 au verset 44. Donc, vous savez qu'on y a le dicton que si quelque chose marche, il ne faut pas le changer. Okay? Et donc, nous, dans notre assemblée, on a la petite boîte. Et ça nous suffit, n'est-ce pas? Mais donc voilà, ici dans cette histoire qu'on va lire, il y a peut-être une boîte plus grande, ok? Donc Marc chapitre 12, verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Et elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc on voit que cette dame, une pauvre veuve, ben elle a donné, donc j'ai fait le calcul ce matin en cherchant sur Internet les valeurs et tout ça, elle a donné à peu près 70 centimes de euros au Seigneur. À l'époque, 70 centimes d'euros, ça achèterait peut-être une petite bouteille de vin. OK? Pour dire une valeur de 70 centimes à l'époque. OK? Alors, je vais observer aussi que même si son offrande était discrète, eh bien, c'était quand même observé. C'était un acte public que Jésus et les disciples avaient observer, ok? Je dis ça parce que parfois, dans l'enseignement de Jésus, il ne faut pas que nos aumônes soient connues à tout le monde, n'est-ce pas? Oh, je vais faire un aumône! Mais la boîte n'est pas un aumône. La boîte, c'est pour l'œuvre du Seigneur, ok? Et donc, ça, j'ai réfléchi, c'est intéressant que tout le monde voyait qui mettait. Donc, ils ont vu beaucoup de riches mettre beaucoup, qui les affectait même pas, parce que c'était de leur superflu. Mais cette dame, elle a donné ce qui restait à elle pour vivre. OK? Alors donc, je me pose la question, et donc voilà ce que je vais vous expliquer ce matin. D'où vient cette pratique de donner de l'argent comme un acte d'adoration et de foi?
Ça vient de la dîme.
Oui, je vais expliquer. Donc, c'est ça la question. Et justement, l'idée de la dîme pour Dieu commence dans Genèse, chapitre 14, qu'on va lire tout à l'heure. Avec Abraham, donc la dîme, l'idée de donner de l'argent, commence avec Abraham dans Genèse chapitre 14 et se termine avec Malachie, tout à la fin de l'Ancien Testament. Donc, c'est tout à travers l'Ancien Testament, on a cette pratique. Donc voilà l'histoire d'Abraham et de Melchizedek. Donc ça commence avant, mais on entre dans l'histoire où le neveu de Lot s'est installé dans la ville de Sodome avec sa famille. Alors il y a eu une guerre, 5 villes contre 4 villes, et les gens de Sodome, ainsi que Lot et sa famille, ont été prises en captivité. Alors, Abraham, avec ses serviteurs et ses alliés, sont allés délivrer les captifs. Ils ont eu beaucoup de butin. De suite, arrive Melchizedek, qui a béni Abraham et qui a béni le Dieu très haut pour avoir donné la victoire à Abraham. Et Abraham a donné à Melchizedek le dixième de tout le butin. Donc, le dixième, la dîme, hein, le 10%. Alors, cet petit récit revient dans les psaumes, psaume 110, verset 4, comme une prophétie pour la prêtrise actuelle du Seigneur Jésus dans les cieux. Et puis, ce récit va revenir aussi dans l'épître aux Hébreux comme preuve de la supériorité de Jésus-Christ et l'Évangile au-dessus de la loi de Moïse. Donc c'est un petit récit très court, c'est quelques versets, on va lire tout de suite, mais qui a une grande importance dans la Bible. Donc on va lire dans Genèse chapitre 14, Genèse chapitre 14, les versets 18 à 20. On ne va pas lire les choses autour, juste cette partie-là. Genèse chapitre 14, verset 18. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et c'est ça, ces deux versets, tout court, mais tellement important. Donc je me suis posé la question, pourquoi Abraham a donné la dîme, pourquoi il a donné le dixième à Melchizedek? Parce qu'il n'y a pas d'antécédent pour cela dans la Bible, c'est voilà, ok. Donc je me suis donné trois réponses, ok. Première réponse est une question aussi, donc j'ai trois questions pour donner des trois réponses. La première question, pourquoi à Melchizedek? Il aurait pu donner la dîme à n'importe qui ou à autre chose, ou mettre ça dans une boîte ou dans un trou, qui sait, pourquoi Melchizedek? Alors dans le récit, Melchizedek est présenté comme représentant du Christ. Il est sacrificateur du Dieu très haut, roi de justice et roi de paix. Alors Jésus est notre justice et Jésus est notre paix. Et donc Abraham a donné à cet homme pour donner à Dieu. Il a donné toute cette boutin, le dixième de tout ça, il a donné à Melchizedek comme s'il donnait ça à Dieu. Okay? Pourquoi Melchizedek? Parce qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. La seconde question, pourquoi donner quoi que ce soit? Est-ce qu'il était obligé de donner quelque chose? Eh bien non, il n'était pas obligé, mais il a fait. Okay? Donc le texte dit que le Dieu très haut a donné à Abraham la victoire. Il ne faut pas oublier ce petit détail. C'est Dieu qui a donné à Abraham la victoire. Et donc, il a fait la dîme à Melchizedek en reconnaissance pour remercier Dieu de cette victoire. Dieu est la source de tout. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on respire, tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on est, tout ce qu'on peut avoir appartient à Dieu. Et donc, puisque le Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre, avait donné la victoire à Abraham, eh bien, par cet acte de donner la dîme, il a fait un acte d'adoration. Et aussi, il a fait un acte de foi concernant toutes les promesses que Dieu lui avait données. À la fin de l'Ancien Testament, par le prophète Malachie, Dieu dit concernant la dîme, « Mettez-moi à l'épreuve. » C'est un acte de foi de participer avec notre argent dans l'œuvre de Dieu. C'était, même quand Malachie dit ça, « Mettez-moi à l'épreuve. » C'est un acte de foi. Après, donc, je me suis posé la question, pourquoi 10%? Il aurait pu donner 15%, 5%, c'était rien d'écrit. Il n'y avait pas, comme je dis, d'antécédent. Abraham a donné 10%. Alors, il n'y a pas de réponse. Mais j'ai des idées. Parce que, par la suite, Moïse, donc Dieu dit à Moïse d'enregistrer toute cette information, les 5 livres de Moïse. Et donc, Moïse va écrire pour le peuple d'Israël, comme un apologétique, pourquoi Dieu s'occupe d'Israël. Eh bien, il va écrire le livre de Moïse. Et dans le livre de Moïse, il va inclure ce petit récit-là. Parce que dans la loi de Moïse, il y a une obligation pour donner 10%. Alors, Abraham l'a fait parce qu'il voulait bien le faire. Mais dans l'Ancien Testament, pour le peuple d'Israël, eh bien, pour soutenir le culte et pour payer le salaire des Lévites et pour aider les étrangers et pour subvenir aux besoins des veuves et des orphelins, il fallait de l'argent. Et cet argent venait de la dîme. On peut lire ça dans Deutéronome chapitre 26. Deutéronome chapitre 26 et le verset 12. Deutéronome 26, 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Ok, donc ça semble, donc je ne connais pas exactement comment ça marchait, mais chaque famille devait rassembler le dîme et donner tous les 3 ans la dîme. On ne donnait pas chaque année, mais on accumulait ce qu'ils allaient donner. Et puis chaque 3e année, ils donnaient le tout. Donc voilà, il donne la liste des personnes qui bénéficiaient. Okay? Et de ce fait, dans Malachie, eh bien Malachie dit que retenir la dîme, c'est la même chose que voler Dieu. Parce que Dieu comptait sur les dîmes pour les Lévites, pour les étrangers, pour les orphelins et pour les veuves. Alors s'il n'y avait pas de dîme, il n'y avait pas de l'aide. Hein? Le Nouveau Testament commence avec les trésors apportés à Jésus par les mages. Hein? Dans Matthieu, ils se sont prosternés, les mages se sont prosternés devant le bébé Jésus. Ils l'ont adoré. Ils lui ont offert le trésor d'or, d'encens et de la myrrhe. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 2. Et verset 11. Et puis Marc et Luc présentent voilà, la petite dame, la veuve, qui amène son argent et dit le quart d'un sou. D'un sou. Puis plus tard, dans les épîtres de Paul, eh bien, Paul va parler beaucoup des libéralités. Okay? 1 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 8, 2 Corinthiens chapitre 9, 1 Timothée chapitre 5, et ainsi de suite. Il y a pas mal d'informations dans les épîtres concernant ce qu'on peut appeler les dons ou les libéralités. On va tourner dans Tite chapitre 3. Tite chapitre 3, c'est le verset 14. On va lire 13 et 14. Tite, chapitre 3, versets 13 et 14. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Donc vous allez vous souvenir quand j'ai prêché sur Tite, c'était aie soin de pourvoir pour le voyage, ça veut dire payer le voyage. Okay? Il faut donner l'argent pour que le missionnaire puisse aller à l'avance avec son œuvre. Et puis, il dit au verset 14, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Okay? Donc, cette idée-là, c'est que Paul dit que les chrétiens qui ne sont pas le judaïsme, les juifs, vous savez, faut payer 8%. Okay? Mais là, on est dans le christianisme. C'est plus le judaïsme. Mais les païens qui sont venus à Jésus, ils n'ont pas la pratique de donner quoi que ce soit à Dieu. Donc, il faut qu'ils apprennent. C'est ça qu'il dit, il faut apprendre que les nôtres, ça veut dire nous les convertis, okay, qu'ils apprennent à soutenir les serviteurs de Dieu. Donc, pour moi, quand mes enfants étaient petits, quand ils, par exemple, on les donnait 10 euros, j'ai dit, voilà, 10 euros, tu mets 1 euro dans la boîte dimanche. Hein? Parce qu'on voulait leur apprendre le 10% qu'ils donnaient plus ou moins plus tard, ça les regarde. Mais c'était pour apprendre, un apprentissage. Parce que ce n'est pas facile à donner. Oh, j'ai besoin de tout. Et je peux vous assurer, si vous avez 100% de votre argent, vous pouvez dépenser 100%. Hein? C'est facile de dépenser. Et regarde, tout le monde a des cartes de crédit. Et on est endetté. 100% ne suffit pas. Eh bien, c'est ce que Dieu veut. Il veut que nous apprenions à donner déjà de ce qu'on a. OK? Et donc, voilà comment j'ai appris ça à mes enfants. Donc, on peut se demander, mais ça sert à quoi? Parce que Dieu n'a pas besoin de l'argent. C'est vrai. Dieu est là-haut. Il est esprit, il n'a pas besoin. Mais l'œuvre de Dieu, c'est une différente question. Okay? Donc, vos libéralités servent pour les frais de culte. Donc, vous avez donné l'argent pour acheter le bâtiment. Okay? Vous payez l'électricité, vous payez l'eau, vous achetez les bibles, les cantiques et les traités, et puis vous donnez l'argent. On n'a pas de serviteurs, nous, mais on commence à faire un soutien pour les missionnaires, etc. Okay? Donc, les frais de culte pour le salaire des serviteurs de Dieu, aussi de l'aide aux missionnaires. Mais aussi, ça peut être que nos offrandes servent pour les œuvres bienfaisantes, et aussi pour l'entraide avec les églises. Parce qu'il y a parfois les églises qui ont des difficultés, et une église peut aider l'autre, et puis plus tard, peut-être l'autre église va nous aider, n'est-ce pas? Donc, toutes ces choses sont les utilités de ce qui va dans la boîte. OK. Donc, je voudrais voir trois versets pour nous donner quelques principes concernant nos libéralités. Donc, premièrement, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5, et puis on va sauter au verset 12. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 5, et puis 12. Nous vous faisons connaître, frères, donc Paul écrit aux Corinthiens. Il dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, à travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Donc, à noter, ils étaient pauvres, ils étaient dans la souffrance, mais ils étaient tout contents de connaître Jésus. Et à partir de cette joie, à travers la souffrance et la pauvreté, ils ont donné pour aider les souffrants dans une autre ville. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leur moyenne, et même au-delà de leur moyenne. Nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints, ça veut dire aux chrétiens. Et non seulement ils ont contribué comme nous à l'Espérion, mais ils se sont d'abord donné eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Okay? Et puis on va sauter au verset 12. La bonne volonté, quand elle existe, hein, parce que tout le monde n'a pas la bonne volonté, hein, l'Église fonctionne bien par la bonne volonté. C'est parce que les chrétiens s'aiment, et donc il y a une bonne volonté. Mais quand il y a une mauvaise volonté, eh ben, ça ne marche plus. OK? Donc, il dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de celle qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. OK? Donc, par exemple, si dans notre communauté, on a besoin de 1000 euros, juste de vous donner un chiffre, et tout le monde regarde dans le portefeuille et donc maintenant ils regardent dans le portefeuille et ils n'ont pas 1000 euros, ils n'ont pas 1000 euros. Voilà. S'ils n'ont pas, ils n'ont pas. Mais s'ils ont, ils peuvent contribuer. Et comme nous, on a acheté le bâtiment. Pourquoi? Parce que certains ont donné plus et d'autres ont donné moins. Et ensemble, comme une communauté, on a pu remplir le besoin afin d'acheter le bâtiment. Donc, on voit dans ce petit verset-là, en dépit de leur pauvreté, eh bien, les Macédoniens se sont donnés premièrement leur propre personne au Seigneur, et puis, par la suite, ils ont donné leur argent. Ils ont donné librement, ils ont donné volontairement, ils ont donné selon leurs moyens, selon le possible. Voilà, c'est comme ça que nous aussi devrions faire. Abraham a donné volontairement et librement. Il n'y avait pas de contrainte. C'est lui qui a dit, tiens, c'est le sacrificateur de Dieu, il est venu me bénir. Et il me rappelle que Dieu m'a donné la victoire parce qu'avec 400 hommes, il aurait pu être tué. 5 villes contre 4 villes. Et je pense que c'est les 5 villes qui ont perdu. Donc les 4 villes avaient plein de soldats et tout ça. Mais Dieu a donné la victoire quand même à Abraham quand il a libéré les captifs. Maintenant, on va rester dans 2 Corinthiens, mais aller au chapitre 9, s'il vous plaît. On va voir chapitre 9, versets 6 et 7. Chapitre 9, 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 et 7. On va avoir un peu plus d'informations là. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donc il dit ça ici, c'est dans le contexte de nos dons, de nos libéralités. Mais il dit dans le plus grand contexte de notre foi. Parce que nos libéralités, ça fait une partie de notre foi. Et Dieu qui veut bénir. Alors regardez, si vous mettez une graine de potiron dans votre potager, combien de plantes vous allez avoir? Combien? Au maximum. Si vous mettez 10 graines, vous aurez peut-être 6 plantes. OK? Et ainsi de suite. Donc, le plus qu'on donne, le plus Dieu peut bénir. Et le moins qu'on participe, le moins que Dieu peut bénir. C'est un fait. Ce n'est pas une réclame du tout. C'est simplement une observation. C'est une, ça fait partie de la vie. Hein? Si vous êtes dans les finances, vous mettez l'argent dans un investissement, et le plus que vous mettez, le plus que vous récoltez. Et le moins que vous mettez, voilà, c'est comme ça. Si vous mettez 10 000, vous ne pouvez pas avoir plus que l'intérêt sur 10 000. Vous mettez 1 milliard, ben vous avez plein d'intérêts. OK. Donc, dans ce verset-là, on continue. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, donc, on est en train d'apprendre. Chacun doit participer. Il a dit, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Donc chacun a un cœur et chacun fait les résolutions dans leur cœur, mais c'est chacun. C'est pas moi pour lui ou moi pour elle ou vous pour vous, etc. C'est chacun, mais c'est chacun. Chaque chrétien a une responsabilité devant son Seigneur. Donc on voit dans ce verset, c'est selon le cœur. Ce n'est pas selon les réclames de l'Église. C'est selon le cœur. Okay? Et donc, selon le cœur, et l'autre là, sans contrainte, ça veut dire que ce n'est pas la dîme. Il n'y a pas de dîme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas contrainte. C'était la loi du pays. Vous vivez ici, vous donnez 10%. Et plus tard, quand il y avait un roi, il a pris 10% de plus. Ah, c'est comme ça. OK? Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de contraintes. Et c'est selon le cœur, c'est avec joie et c'est sans tristesse. Si on ne peut pas donner sans tristesse, il ne faut pas donner. Il faut donner. Mais il ne faut pas donner avec tristesse. Donc, il faut, dans le cœur, il faut arriver à savoir à quel point je peux donner joyeusement. Et qu'est-ce qui est mes limites, et au-delà de mes limites. Mais si c'est comme, oh, ben, le pasteur est venu me dire, ah, il faut donner ça. Là, ce n'est pas le Nouveau Testament. Okay? Et puis, comme on voit ici que chacun donne, on voit dans 1 Corinthiens chapitre 16, et on saute dans 1 Corinthiens chapitre 16, il y a encore une petite chose intéressante là. 1 Corinthiens chapitre 16, et c'est le verset 2. Que chacun de vous, donc c'est tout le monde en fait, que chacun de vous, donc au temple c'était les riches et c'était les pauvres, hein, la veuve pauvre a donné, et les riches, riches donnaient, ok? Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. OK, donc il insiste encore que c'est chacun, mais tous les semaines, il devait mettre de l'argent à côté chez eux. Hein? Pour quand c'était utile. Et comme j'ai dit dans l'histoire qu'on a, les deux histoires qu'on a racontées tout à l'heure, c'était les plus riches qui ont donné, comme Abraham, et c'était les plus pauvres, comme comme la veuve. Donc avec tout ça, on va dire que votre participation est importante, la participation de chacun. Votre participation dans la collecte est un acte de foi. C'est un acte de remerciement envers Dieu et c'est aussi une participation à la communauté, la petite communauté que nous sommes. Certes, il ne faut pas la mécomprendre. Il y a plein d'autres façons qu'on peut participer dans la communauté. Hein? Il y a, par exemple, le temps. On a chacun le temps qu'on peut mettre à la disposition de Dieu. On a nos talents qu'on peut mettre à la disposition de Dieu. Mais dans les récits qu'on a vus ce matin, c'est surtout ce qu'on a comme trésor qu'on met à la disposition de Dieu. Donc, les croyants de la Macédoine se sont donnés eux-mêmes à Dieu. Et la veuve dans le temple a donné tout ce qu'elle avait. Okay? Le point, c'est que en ces moments-là, le don représentait leur personne. Ça représentait leur soumission à Dieu, leur adoration, leur reconnaissance et leur foi. Amen. Le Seigneur vous bénisse.